En ayant notamment été membre du premier cabinet Prodi et étant expert auprès d'indicateurs de différentes institutions, notamment la Commission européenne, bien évidemment. Alors, pourquoi Roberto Camani? Parce que c'est un des rares spécialistes des sciences régionales à s'intéresser depuis longtemps à la question des communs, notamment dans ses derniers articles, et à qui on a demandé de faire le lien avec. Entre cette tradition des communs et celle du développement des territoires. Donc, je te laisse la parole.
Merci. Bonjour. Merci pour l'invitation, bien sûr. Merci aux collègues qui m'ont précédé pour leur admirable intervention. Benjamin nous a donné des définitions très précises et a développé sur ces définitions les possibilités d'engagement, les possibilités de monter des politiques, de monter des actions. Et bien sûr, Catherine nous a ouvert sur une lecture science politique. Du problème, de la problématique des biens communs, nous ouvrant aussi une perspective sur le futur et sur croire et à quoi viser, disons, le but d'une société à construire. J'ai dit tout de suite que des choses. Je ne suis pas un spécialiste des commons. Bien sûr, je les ai étudiés, j'ai relié beaucoup des éléments qui viennent de la littérature spécialisée sur les commons, les communes, les communs. J'ai beaucoup encore à comprendre. et cette matinée, ça m'a été très, très utile. Deuxième point, je me mets plutôt dans la perspective de Benjamin, avec qui je partage l'origine d'économiste, même si non orthodoxe. Le titre, le territoire comme bien commun, Understanding Territory as Commons. Les économistes sont un peu rough. Rude. Et moi, je ne fais tellement de différence entre bien public et commons. Hein, je dois le dire tout de suite. Prochain. Ce que je vais aborder, j'espère un peu vite, parce que beaucoup a été déjà présenté. Je parle de commons de nature territoriale, hein, ce que Benjamin appelait des fonciers, communs fonciers. Je préfère les appeler territoriaux. Alors, je ne parle pas de l'autre catégorie, la grande catégorie nouvelle des biens bien communs, de l'intelligence, de la connaissance, etc. Hein? C'est tout autre chose. Ce type de biens peuvent être définis suffisamment, d'une façon suffisamment claire. Définition des territoires. En économie non orthodoxe et définition de commons territoriaux. Convergence, deuxième point, convergence entre deux pistes d'analyse sur les commons, une juridique et une économique, qu'on était déjà présenté, qui est très intéressant. Ces deux pistes complètement séparées, comme toujours, hein, juristes d'une part, les économistes, les politologues de l'autre côté, mais avec une possibilité d'intégration très forte et très fort intéressante. troisième point, c'est un peu un jugement. L'effort de ce qu'on a appelé l'école italienne, l'école juridique, ce n'est pas une école, c'est des grands savants qui ont procédé séparément, mais avec des liens explicites très forts. Nous permet, à mon avis, de passer du droit au territoire entendu comme une métaphore, hein, le droit à la ville d'Henri Lefebvre, si bon, on voulait, une métaphore culturelle et politique, à une réalité juridique. C'est quelque chose d'important. Un petit regard sur un territoire particulier qui est la ville, qui pose des questions spécifiques tout à fait intéressantes. Et le deuxième point, la deuxième piste, ce que nous amène l'approche économique. Et en entendant Elinor Ostrom comme une économiste, elle a eu un prix Nobel pour l'économie, elle est plutôt une political scientist. Quelle est la contribution dans cet effort de construire une vision générale, théorique, sur les biens communs territoriaux? Le sixième point, je tire des indications de Elinor Ostrom, des mots, des importants éléments qui font la possibilité de gouverner les commons, parce que là je trouve des liens très forts avec d'autres pistes d'analyse qui n'entrent pas dans le débat sur les commons, mais qui entrent dans les débats sur l'organisation territoriale, la compétitivité territoriale. Excusez-moi, je suis économiste et je pense que l'élément de innovation, l'élément de la compétitivité, c'est quelque chose sur lequel on doit avoir un regard. Et je dois dire que le territoire et la façon de gérer le territoire et les rapports, les relations territoriales, génèrent compétitivité et capacité d'innovation. Et le septième point, doit-on continuer à être pessimiste comme Harvey ou optimiste comme Elinor Ostrom? Et j'ai indique quatre sources pour un espoir, hein, pour l'optimisme. Ok. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut définir un territoire d'un point de vue économique non orthodoxe, hein, comme un ensemble de relations, hein, relations fonctionnelles, hiérarchiques et sociales. Mais plus précisément, on peut dire que le territoire est un système d'externalité, pecuniary, technological, bon, ça c'est des technicalités, et un système d'activité, de traditions, de professionnalités, de savoir-faire. Un système de relations sociale et économique qui représente ce que j'appelle le capital relationnel du territoire. Un système de représentation et un système d'identité. Hein. Entre parenthèses, j'ai essayé de mesurer l'effet du capital relationnel, le capital identitaire sur les politiques territoriales, mesurées de façon quantitative à l'intérieur d'un programme de Territorial Impact Assessment, évaluation d'impact territorial de politique. Finalement, un ensemble de règles des gouvernances. Alors, si on donne ce type de définition multiple, on peut trouver lieu dans cette définition pour introduire les commons. Mais comme vous allez voir, il faudrait même une intégration. Territorial commons, les commons territoriaux, sont des objets, de choses, de biens, usage collectif, common pool resources, et ou de propriété collective, bien sûr, c'est deux points de vue différents mais convergents, qui sont liés à un territoire spécifique et qui sont caractérisés, vous l'avez monsieur dit avant, de cette caractéristique intrinsèque, je dois dire, une rivalité haute. Alors, ne sont pas des biens publics seulement, sont des biens publics impurs, qui sont sujets à des comportements opportunistes alors, d'une part, rivalité, et de l'autre part, non ou difficile excludabilité, c'est pas comment dire en français, excludabilité. À cause de ça, ils sont sujets à la tragédie des commons. Là, je dois dire, je ne partage pas le jugement de Elinor Ostrom et de Catherine sur le fait que c'était un mauvais article, faute de indiquer que tout le monde s'est trompé en suivant cette idée pendant 30 ans. Bien sûr, c'est un article qui relève d'un modèle abstrait, et Ostrom dit que c'est l'extrême, c'est la situation extrême que nous indique Hardy. Et bien sûr, nous ne donnons pas d'alternative entre les divisions. Ça, c'est des limites, c'est des limites importantes, et là, on a comblé plusieurs décennies après cette limite. Tout le monde sait, on voit une relance d'attention sur les commons l'évidence des désastres d'environnement. Et les désastres que, par exemple, nous proposent les périphéries urbaines les territoires dévastés, tropicaux, etc., nous indiquent qu'il y a place pour une réflexion pointue. OK. Et alors, venons aux élaborations du milieu juridique. Ces élaborations regardent la confirmation de la prééminence de la propriété collective sur les commons territoriaux par rapport à la propriété privée. C'est une affirmation forte, je dois dire que c'est quelque chose qui vraiment sort comme synthèse des travaux récents qui ont été déjà cités par Benjamin. Je vous souligne un troisième auteur au-delà de Rodotta. Qui a fait une synthèse générale de ça. Paolo Maddalena était vice-président de la Cour constitutionnelle italienne. Ce n'est pas un juriste par hasard. Les éléments logiques sur lesquels s'appuie ce type de réflexion et de conclusion peuvent être indiqués de cette façon. Primo, une réévaluation de la loi naturelle, la jus naturale, que le droit romain nous indique. C'est ce que la nature nous a indiqué en termes de possibilités et des façons de survivre en tant que human beings. Nous indiquons les normes pour respecter la vie humaine et l'équilibre avec l'environnement. Deuxième point qui suit, l'illustration et le fait de souligner les relations que l'humanité a toujours eues avec le territoire. Territoire, le terme vient de territorus, qui veut dire le lit de la terre. Et sur le territoire naît le droit. Le droit s'applique à des territoires identifiés. Et là, on a le fresco théorique et historique de Carl Schmitt avec son ouvrage Der Nomos der Erde, le nomos de la terre, sur ce type d'indication. Et troisième point, l'effet des l'appropriation collective d'un territoire qui appartient au peuple, à la collectivité territoriale, dans la forme d'une propriété collective originale et originelle, qui vient avant, dans les droits romains, avant de la propriété privée même. La propriété privée agricole devient, descend avec une, disons, en prenant des parties de la propriété collective et en la distribuant comme propriété privée aux soldats, aux gens qui participaient à l'élargissement de l'Empire. Alors, si tout ça est vrai, suite à ce type de raisonnement, on peut arriver à une définition de Territorial Commons, qui est la définition donnée par la Commission Rodotà, 2013. Les Territorial Commons sont des ensembles, des biens qui sont essentiels pour la survie de l'humanité et pour les développements de la personne humaine et de la personnalité humaine et qui sont strictement liés, Benjamin était très, très précis, qui sont et qui dérivent, sont strictement liés d'un point de vue logique et juridique aux droits fondamentaux de l'homme. Cet élément, vous comprenez, donne une priorité à ce type de catégorie de biens. Mais ici, alors, on tombe sur une problématique qu'on a déjà abordée ce matin dans les deux discussions. Il ne s'agit pas seulement d'une troisième forme de propriété. Ce n'est pas ça, ce n'est pas véritablement ça, parce que le type de logique sur laquelle se base le concept des commons, c'est une logique fondamentalement non propriétaire. La propriété collective, ça ne peut pas dire qu'il y a un propriétaire. Il y a une collectivité qui est souveraine, qui a la suprema potestas sur des biens communs. Alors, c'est une troisième classe qui ne partage pas la même dimension propriétaire. Ok. Alors, on peut, si on accepte ce type de définition, on peut intégrer l'idée, la définition de territoire. Territoire est tout ce que je viens de dire, mais aussi un espace de relations et un espace géographique en même temps, sur lequel une communauté de gens agit. En défendant les biens communs comme des instruments pour la réalisation de la personne humaine et pour la réalisation des droits universels de l'homme. On a besoin de ce type de biens, on a besoin des biens d'environnement, on a besoin des biens culturels, on a besoin de landscape, du paysage. On compte aussi les paysages dans la commission Rodotà entre, parmi les biens communs territoriaux. Il y a une conséquence intéressante aussi. Si on accepte ce type de lien entre les territoires, droits fondamentaux et instruments pour les atteindre qui est dans le commun territorial. Même c'est un champ que je laisse volontiers à la science politique. C'est même le concept de citizenship, de citoyenneté qui est changé, peut-être amplifié. Parce que si la citoyenneté un droit qui va accompagner la personne wherever it is et, dans chaque endroit même en dehors de son territoire le type de droit reste alors on peut dire que on va un peu défier le concept traditionnel de citoyenneté, qui est un concept oppositionnel, national et purement identitaire. C'est quelque chose sur lequel on pourrait beaucoup réfléchir. Et c'est aussi important pour éclaircir un peu la nature de ce droit de propriété collective, un jugement de la Cour de cassation italienne, en 2011, a reconnu l'existence d'une propriété collective sur les paysages, propriété collective du paysage, mais elle a référé ce type de propriété collective non pas à l'État comme personne juridique, n'est pas un bien public, mais à l'État comme ensemble de personnes, comme communauté de personnes. Et c'est écrit de cette manière. Ok. Alors, on va regarder très vite quelque chose sur lequel ici, en France, je ne dois pas insister beaucoup. On doit beaucoup sur ce type de sujet au bouquin de Henri Lefebvre sur le droit à la ville, hein, qui a lancé d'une part une quantité d'actions, même révolutionnaires, sur l'appropriation des biens communs, mais aussi de mouvements culturels et des déclarations institutionnelles internationales. Je rappelle pour tous c'est pas un rapport, mais pas une déclaration, mais c'est un rapport très influent UN Habitat, qui avait le but de réduire la fracture urbaine, et où on disait que les administrations locales doivent protéger toute forme des droits de l'homme, encore une fois, hein, pour réduire la fracture urbaine qu'on voit particulièrement dans les villes des pays en voie de développement. Transparent. Bien sûr, Henri Lefebvre écrivait il y a 50 ans. Récemment, des gens qui étaient tout à fait dans la ligne de pensée de Henri Lefebvre ont indiqué la nécessité d'une mise à jour des messages d'Henri Lefebvre. En particulier, récemment, David Harvey nous a indiqué un élément que j'ai souligné. Le droit à la ville est beaucoup plus qu'une liberté individuelle d'accéder aux ressources urbaines. Elle est le droit de changer nous-mêmes en changeant la ville. Hein? Et c'est plutôt un droit commun qu'un droit individuel. Et Paolo Maddalena a dit quelque chose de semblable. On doit passer d'une affirmation individualiste à un droit, comme si on était, on s'adressait à un pouvoir public absent ou loin, hein, mais arriver à une vision d'une communauté politique qui s'organise sur un territoire spécifique et à travers ça va découvrir ses droits fondamentaux. Comment mettre en pratique le droit au territoire, le droit aux communs territoriaux et urbains? Bien sûr, comme je viens de dire, la réflexion juridique donne substance, je voudrais dire, à la réflexion plus, disons, philosophique, culturelle, politique, hein, parce que nous indique l'existence des véritables droits qui sont basés sur notre tradition des lois, en particulier, bien sûr, les pays qui dérivent leur système du droit romain et pas de la common law. On passe d'un droit entendu comme métaphore, comme je viens de dire, à quelque chose, un droit disons, actuelle. Hein, actuelle. Et quelles sont les façons de implementation, de réalisation de ce type de droit? Bien sûr, les actions spontanées des collectivités locales, mais aussi la participation individuelle et collective par association, hein, dans trois champs précis: la sphère législative, à travers le référendum, etc. La sphère administrative, à travers la subsidiarité, la gestion directe des biens communs, et la sphère judiciaire, hein, l'azione popolare, on dit dans le droit italien, probablement vous avez même le même type d'action, c'est la mise à jour d'un institut du droit romain qui s'appelait Interdicta Popularia, hein, qui pouvait être contre l'usage commun des ressources. Hein. Il y avait un interdictum prohibitorium, hein, pour stopper des actions, hein, et l'interdictum restitutorium, hein, pour restituer les biens dans l'état où il était avant. Hein. C'est des possibilités qui sont dans les mains du peuple. Hein. Utilisons-les, nous disent les juristes. Et je viens à l'élaboration économique. L'élaboration économique, en particulier de Elinor Ostrom, nous présente une possibilité d'optimisme, hein, parce qu'elle individue entre la gestion privée et la gestion publique, et aussi la gestion à travers la collective action, hein, l'action collective des privés en club, hein, qui a des limites dans le système d'incentifs. On n'est pas incentivé à se porter de façon virtueuse. Hein. Et elles répondent de cette façon optimistique à la tragédie des Commons. Et son ouvrage nous amène quoi, substantiellement? Nous amène des possibilités de gouvernance. Hein? Quelles sont les conditions pour avoir une gouvernance de succès sur le bien commun? L'analyse est plutôt empirique. Hein? C'est une collection de cas qui viennent des propriétés collectives des pâturages dans les Alpes à d'autres formes des propriétés collectives. Et conditions pour que on puisse avoir une gouvernance successful, hein, qui puisse avoir un succès, sont, elle les a indiquées, pas tout de suite, mais dans le temps, je dois dire, je peux les indiquer de cette façon. Primo, que les conditions effectives s'approchent ce que la théorie des jeux, hein, d'un point de vue abstrait, nomme de jeu répété. Hein? Quand on a un jeu one shot, hein, une fois seulement, là, no hope. Hein? Il n'y a pas d'espoir. Les comportements non coopératifs, c'est ce que va se passer dans le 100% des cas. Hein? 99 sur 100 cas. Mais dans le cas des jeux répétés, ça, ce n'est pas le cas. Parce que dans le, quand il y a une répétition de même type de jeu, il y a place pour se comprendre, pour comprendre qui est l'autre acteur, qui possiblement va être un coopérateur. On peut développer une réputation individuelle, une réputation de personne qui reste ancrée en un pacte, hein, même s'il n'est pas écrit. Il y a la possibilité de créer et faire surgir un élément de confiance collective. Hein. Ce sont des éléments de base. Et bien sûr, il faut des sanctions. Hein. Il faut des sanctions morales, mais aussi très bien indiquées dans l'accord collectif sur l'usage du bien commun. Hein. Les sanctions agréées par la communauté. Alors, trust, reputation et reciprocity sont des éléments de sentiment, des façons de s'approcher entre individus dans une collectivité qui peuvent amener à un succès. Ces trois types, je vais rapidement maintenant, ces trois éléments de confiance, réputation et réciprocité sont des éléments, sont des moral sentiments qui on connaît très bien dans la littérature sur l'économie locale, l'économie du développement local. Hein, on les a trouvés dans toute la théorie des districts industriels, l'école de la proximité en France, etc. C'est quelque chose que se développe dans certains endroits caractérisés par la présence de la petite et moyenne entreprise, où il y a des rapports, des relations entre les membres de ces collectivités qui sont bien embodied, incorporés dans un système culturel et social de valeurs shared, partagées, des valeurs partagées qui structure les marchés, hein, structure les relations. N'est pas dans ce type de territoire, n'est pas nécessaire pour un contrat d'arriver avec l'avocat. Une poignée de main est suffisante. On les appelle contrats imparfaits. N'est pas le cas de signer toutes les possibilités. On a confiance. Et à travers ça, l'efficacité de l'économie locale est multipliée. La théorie des milieux innovateurs qu'on a tout ensemble développée dans les derniers 30 ans en étudiant ce même type de structure sociale et économique, mais les interprétant dans le point de vue de la capacité d'innovation plutôt que dans le point de vue de la compétitivité statique. Et là encore, on voit qu'à travers ce type d'éléments, les sanctions, mais aussi la réputation, la confiance, etc., on peut attraper une capacité d'innovation répandue et très, très forte à travers des procès socialisés, des réductions de l'incertitude, et deuxièmement, à travers des processus d'apprentissage collectif. Je vais vite sur, sur ces éléments, mais vous pouvez avoir très bien. Et je viens aux dernières deux slides. Est-ce qu'on peut être optimiste avec ces éléments que nous viennent de l'approche économique, l'approche juridique, sur les possibilités de gouvernance des biens communs territoriaux? Il y a des différences à faire. Quand on parle de trust, reciprocity, etc., dans les districts industriels, dans les milieux innovateurs, on parle de réseaux inter-individuels de confiance, de coopération, mais entre des personnes qui se sélectionnent, hein, qui se choisissent. Hein, tu vas choisir l'autre acteur local avec qui on va lancer une coopération économique. Dans le cas des commons, ce n'est pas le cas. Tu as besoin de toute la communauté. Tout le monde doit agréer sur un comportement de type coopératif. Il y a une différence substantielle. Alors, le succès des milieux innovateurs et des districts industriels, on peut le répéter dans des conditions que je viens d'indiquer, mais avec fatigue, hein, avec une probabilité mineure. Deuxièmement, comme Harvey a noté à propos de Elinor Ostrom, presque tous les exemples qu'elle amène des collaborations effectives, hein, empiriques, il y a des communautés où se passe ce type de choses et on a sauvé, hein, on a gardé les biens communs. Ce sont des cas où il y a très peu d'acteurs. Hein, une centaine. Hein, et quoi alors sur les commons qui touchent millions de personnes? Comment arriver? Bien sûr, le type de moral sentiments peuvent être le même, mais comment les partager, les faire naître, les organiser dans des territoires de plus en plus vaste. Hein. C'est la grande question. Et alors, les éléments, les sources d'optimisme que je vois, sur lesquels on peut se baser pour un substantiel optimisme, non, je dois dire un certain niveau d'optimisme, sont le 4 que je viens d'indiquer. L'évidence des coûts de la non-coopération, hein, on le voit, ils ne sont pas seulement des coûts collectifs. Hein. L'individu individualiste propriétaire, on s'en fiche de ça, mais c'est des coûts privés, des coûts individuels. Hein? Si dans la mer il n'y a plus de poissons, c'est une perte économique pour tous ceux qui travaillent sur la mer. Et ça, c'est un élément important, les intérêts. Hein? Deuxièmement, sur le même type de longueur d'onde, il y a dans des sociétés avancées et acculturé, je ne sais pas si on peut dire ça en français, il y a évidence de la supérieure profitabilité d'un comportement privé de type vertueux. On peut gagner beaucoup plus dans le champ des bâtiments si on construit avec qualité, si on construit avec une qualité de l'endroit supérieure, si on construit dans le verre, en utilisant des processus soutenables, etc. Hein? Deuxième élément d'espoir qui touche les portefeuilles. Hein? Et alors, je dois dire, tout ça peut amener à une conscience supérieure. Troisième élément, le memorial sentiments que je viens d'évoquer, de plus en plus, c'est la dernière, hein, de plus en plus nous indique que la demande même, la demande des citoyens, la demande des consommateurs, hein, va s'adresser dans des directions complètement différentes de celles des biens que nous on connaît dans l'économie pure des marchés. On les appelle reciprocity goods, des biens de réciprocité, des biens qui peuvent être utilisés ensemble. Aller à un concert au lieu de se acheter un CD. Hein. Ce type de biens de réciprocité et même de plus en plus des biens de non-réciprocité, les dons. Hein. C'est pas ça, hein. De plus en plus. De biens qu'on appelle positional goods, des biens. Positionnel, hein, qui indique un statut d'appartenance à, disons, un réseau, une collectivité de gens qui ont le même type de goût, hein, qui ne fument pas, qui n'ont pas la voiture, ou qui mangent du organic, hein, etc. Hein. Et aussi la demande aux entreprises d'utiliser des moyens de production et des processus de production soutenables et durables. Et last but not least, en poursuivant légalement ceux qui interviennent, même les privés, hein, même le privé et les propriétés privées qui met en danger les communs territoriaux. Hein. Là, tout ça dérive de cette prééminence de la propriété collective sur la propriété privée. Je vous remercie.